Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Come cycling, come cycling, just try it and you'll see.
Bonjour à tous. Usagers, cyclistes, sociologues, maires et urbanistes, tous évoquent désormais une vélorution, une révolution portée par le deux-roues. L'usage du vélo en ville est en hausse, y compris dans des pays comme la France, qui était en queue de peloton du classement européen. L'exemple vient bien sûr du Nord et des Pays-Bas. Pour 36% des Néerlandais, le vélo est le premier mode de transport, et pas seulement pour les petits trajets d'ailleurs. Combiner le vélo et le train, travailler sur des projets multimodaux, comme on les appelle, c'est tout l'enjeu des prochaines décennies. Aux Pays-Bas, c'est déjà une réalité, comme l'a constaté sur place Anne Leray.
En Pays Batave, la bicyclette est reine. Un Néerlandais parcourt en moyenne 900 km par an à vélo contre 85 km pour un Français. Les pistes cyclables sont partout, elles sont sécurisées et confortables et les aménagements sont très cohérents. Tout est fait pour donner au vélo une vraie place au sein du trafic. Pour aller plus loin et se rendre d'une ville à l'autre, notamment pour travailler, le tandem vélo-train a le vent en poupe. Les Pays-Bas veulent en faire une option de mobilité interurbaine attractive et mise sur son développement depuis 10 ans. C'est le cas à La Haye qui recense 540 000 habitants et environ 1 million de vélos. Nathalie Neuten, ancienne journaliste sportive, est la porte-parole du service mobilité de la mairie. Elle explique que l'accent est mis sur la location à l'entrée et à la sortie des trains. À la gare centrale, 600 vélos appartenant à la NS, principale compagnie ferroviaire néerlandaise, sont en effet disponibles.
Je crois que nous avons ici le plus grand nombre de vélos de toute l'Europe. Nous combinons les transports en commun et les vélos car nous essayons de réduire le nombre de voitures dans les villes. Il y a trop de voitures, mais il y a aussi beaucoup de vélos, car c'est très néerlandais d'avoir un ou deux vélos par personne. Donc maintenant, quand tu arrives à La Haye par le train, la première chose que tu vois, ce sont des vélos à louer. Tu peux en prendre un pour te rendre au travail, chez toi ou dans ta famille. Et on espère ainsi que les gens choisiront de ne pas prendre leur voiture.
L'usage le plus répandu est encore d'avoir son propre vélo et de le laisser à la gare avant de sauter dans un train. On voit ainsi sur le parvis des gares d'immenses garages à vélos en plein air et des rangées de bicyclettes à perte de vue. Pour gérer cette surpopulation de vélos et mieux organiser leur présence aux abords des gares, La Haye a construit un immense parking à vélos souterrain sous sa gare principale.
We have a really big central station.
Nous avons une très grande gare et il y a des milliers de vélos chaque matin, enfin en temps normal, car avec le Covid, il y en a moins. Donc nous avons construit le plus gros garage à vélos d'Europe sous la gare centrale de La Haye. C'était complexe à réaliser, mais maintenant tout le monde peut garer son vélo gratuitement. Et c'est vraiment mieux, car si tous les gens prenaient leur vélo dans le train, les trains seraient saturés.
Ce parking, en septembre 2020, représente un investissement de 42 millions d'euros. S'il peut accueillir 8500 vélos, il affiche pour l'instant un taux d'occupation assez faible du fait du contexte pandémique. Ce matin-là, Alice et Yuri, jeunes couples néerlandais, viennent y poser leur vélo avant de sauter dans le train pour se rendre à Leiden. Pour gagner cette ville voisine de La Haye, c'est 25 minutes en voiture contre 9 minutes en train.
On vient de partir de chez nous en vélo, on a acheté des fleurs en chemin. On va garer nos vélos dans le parking souterrain et prendre le train pour aller voir ma mère. Demain, on reviendra récupérer nos vélos ici et on rentrera à la maison. Parce que c'est si facile de rouler à vélo. Ça devient utile d'avoir ce genre de parking. Pour moi, c'est une façon très pratique de se rendre à la gare.
Pour nous, c'est plus commode de prendre les vélos et d'arriver ici en 10 minutes plutôt que de regarder les horaires du tramway et de devoir prendre le tram pour aller jusqu'à la gare. Ça prend plus de temps, c'est plus d'organisation. Tu es plus indépendant avec le vélo, c'est une partie du cercle vertueux. Si le gouvernement soutient cela, plus de gens vont le faire.
Alice et Yuri, qui ont testé le vélo en Belgique et en France, décrivent un manque d'espace sécurisé pour garer les deux roues et des pistes qui ne séparent pas assez distinctement les automobilistes des cyclistes. Mais aux Pays-Bas, tout est facilité, explique Alice, adepte des voyages multimodaux. Elle choisit par exemple cette option quand elle veut se rendre à Nijmegen, à 140 km à l'est de La Haye.
Par exemple, quand je vais voir mes amis à Nijmegen, je prends le train ici et une fois sur place, j'emprunte un vélo. Je le loue pour la journée pour 3,25 €. Et de cette façon, quand on veut autre ville, on peut y aller ensemble, à vélo, et utiliser les équipements à disposition. Ce qui est super, c'est rapide, c'est flexible, c'est sain. Tu peux boire un verre et remonter sur ton vélo sans être obligé de conduire.
La troisième option est de prendre le train avec sa bicyclette. C'est le choix de Vandeline qui vient de descendre d'un wagon avec son vélo. Il est pliable, a le même statut qu'un bagage et peut embarquer gratuitement. Pour un vélo non pliable, la somme est modique, mais le transport n'est pas gratuit.
Très souvent, pour mon travail, et là, pour aller dans l'appartement de ma mère, je prends le train avec mon vélo. C'est rapide, tu ne dois pas attendre, c'est plus pratique que tout. Faire du vélo, c'est éco, mais ce qui est plus important encore, c'est que j'adore faire du vélo. J'aime être dehors et faire du vélo. Je suis typiquement néerlandaise, à 100%. Utiliser le vélo et le train, c'est plus rapide que de se déplacer en voiture.
L'université d'Amsterdam vient de publier une étude montrant que la synergie du vélo et du train devient une véritable alternative à la voiture. C'est un mode de transport hybride à part entière qui allie la flexibilité spatiale du vélo à la vitesse du train. 20% des voyages train-vélo ont ainsi remplacé les déplacements en voiture et 66% des personnes optant pour cette façon de voyager ont une voiture mais préfèrent ne pas l'utiliser. Il est bien vrai que pédaler aux Pays-Bas est à placer au rayon du bonheur.
Die Autos stehen im Stau, ich fahr vorbei. Alle Ampeln grün, die Bahn ist frei, wenn ich mit meinem Fahrrad fahr.
Et en Allemagne, il y aura bientôt des diplômes de spécialiste du trafic cycliste. La toute nouvelle matière a fait son entrée à l'université par la grande porte. 7 chaires de professeurs ont été créées. Objectif, réconcilier le vélo et les grandes villes de manière scientifique. Depuis Berlin, Julien Méchaussi.
Avec 40 000 km de pistes cyclables et près d'un citoyen sur deux qui déclare utiliser régulièrement leur vélo, l'Allemagne fait figure de bon élève européen. Mais tout cycliste qui s'est déjà aventuré sur un deux roues dans une ville allemande peut en témoigner, le chantier reste énorme au pays de l'automobile. Pistes cyclables peu sécurisées, manque de planification ou encore mentalité du plus fort contre le plus faible sur la route. Avec ses 7 premières chaires universitaires, l'Allemagne souhaite augmenter les capacités de recherche et mettre sur pied des stratégies à destination des élus locaux. D'après Yana Kuhl, toute première professeure nommée à un tel poste à l'automne dernier, il faut avant tout faire du vélo une expérience positive pour tous, avec le moins de conflits possible entre les usagers de la route. Un nouveau domaine de recherche fondamental qui bénéficie d'importants moyens financiers. Chaque chaire est ainsi dotée de 400 000 euros sur une période de 5 années. À quoi viennent s'ajouter 125 millions d'euros jusqu'en 2023 pour réaliser des projets pilotes d'amélioration du trafic cycliste. Avec cette entrée à l'université, le vélo devient désormais une science avec des diplômes de master à la clé qui offrent une vraie expertise sur le vélo et des étudiants appelés à faire entrer la petite reine dans les mairies et les bureaux de planification urbaine. Si Yana Kuhl est bien consciente qu'il va falloir beaucoup de temps pour transformer en profondeur la mobilité urbaine, la crise sanitaire a montré que les choses pouvaient changer très rapidement. À Berlin, mais aussi à Paris, de nombreuses nouvelles pistes cyclables, au départ temporaires pour désengorger les transports publics, sont aujourd'hui permanentes, des pistes larges et isolées de la circulation automobile, sans conflit avec les autres usagers.
Fais-tu Only la nuit, et vous verrez comme moi les voitures qui dorment, les pavés qui dorment.
La cohabitation sur la route, dans la ville, c'est aussi une question de sécurité. En Europe, 8% des accidentés de la route sont des cyclistes. Mais la bonne nouvelle, nous disent les spécialistes de la petite reine en milieu urbain, c'est que plus il y a d'usagers du vélo, moins il y a proportionnellement d'accidents mortels. Tout simplement parce que le cycliste n'est plus invisible. À Paris, il y a encore des progrès à faire. Au carrefour, au rond-point, les voies sans piste cyclable, c'est le reportage de Julie.
Sous un grand soleil, les vélos défilent. Vélib, vélo vintage, vélo électrique, vélo de course, dernier cri, il y en a pour tous les goûts sur cette grande avenue parisienne. La circulation est dense. L'an dernier, certains compteurs installés par la ville ont enregistré une moyenne de 200 passages à l'heure. Rouge, Laurent Hérault met pied à terre. Depuis un an, il fait 2 heures de vélo par jour pour aller travailler et pas toujours sereinement.
J'ai tombé en étant imprudent, en voulant aller trop vite. Et j'ai aussi pris un piéton qui a avancé au milieu de la route dans le sens contraire du sens de la circulation.
Rien de grave, pression qui demande de l'autodiscipline.
Comme il y a beaucoup de monde sur la route, beaucoup de gens aussi imprudents que soi quand on ne fait pas attention. Les piétons, les trottinettes, les autres vélos et les automobiles évidemment. On a tendance parfois à aller un petit peu trop vite. Et je pense qu'il faudrait promouvoir la discipline et que les gens qui font du vélo fassent un peu plus attention quand même. Parce qu'il y a vraiment des comportements incroyables.
Lida, elle, a opté pour le vélo électrique. Et quand on lui demande si elle se sent en sécurité, la question la fait presque rire.
Il y a plein de voitures qui ne me laissent pas passer ou ne me laissent pas la place. Et en plus, au niveau des pistes cyclables, il y a toujours les trous et il y a tous les problèmes. À ce niveau-là, les voitures qui se garent, donc des fois, il faut les passer. Après, il y a d'autres voitures qui arrivent. Donc, ouais, il y a certains problèmes tous les jours.
Circuler à vélo entouré de bus, de camions, de deux roues pétaradant peut faire peur, d'autant que le nombre d'accidents augmente. Mais en réalité, le risque, avec l'explosion du nombre de trajets, aurait statistiquement baissé, selon le collectif Vélo Île-de-France. Stein von Osteren est le porte-parole de ce groupement d'associations qui défend la place du vélo en ville.
Le nombre de trajets à vélo a augmenté de 66%. Donc en fait, ça veut dire que c'est moins dangereux maintenant qu'avant. Pourquoi ? Ça s'appelle la sécurité par le nombre, parce que plus vous êtes nombreux, plus vous êtes vu en tant que catégorie d'usagers, plus vous êtes en sécurité. Aujourd'hui, on a une masse critique qui s'est déclenchée à Paris, et en banlieue, c'est en train de se faire aussi.
Il reste malgré tout beaucoup à faire. Devant nous, 5 voies automobiles, un tunnel et pas un espace pour le vélo. Les cyclistes sont relégués dans les couloirs des bus et taxis. Une très mauvaise idée, explique Stein von Osteren.
Et là, par exemple, ce taxi que vous voyez là, qui passe à toute vitesse sur ce couloir de bus, mais comment voulez-vous qu'un enfant de 12 ans partage sa voie avec ce taxi qui roule si vite? Donc, pour créer la sécurité, il faut vraiment séparer les flux, notamment sur ces grands axes qui transportent énormément de trafic.
Il existe plus de 1000 km de pistes cyclables dans la capitale, mais toutes ne sont pas adaptées.
Le problème, c'est qu'un vélo doit pouvoir doubler un autre vélo. Et c'est pour ça que les pistes doivent être larges. Il y a d'autres raisons pour lesquelles les pistes doivent être larges. Un parent, par exemple, doit pouvoir rouler à côté de son enfant. Il faut aussi penser aux nouvelles logistiques qui arrivent. Demain, on aura beaucoup ce qu'on appelle des boîtes à vélo, des entrepreneurs à vélo, qui se déplacent maintenant avec des vélos cargo. Et toutes ces nouvelles tailles, il faut les accommoder. Et sur des petites pistes cyclables, ça ne marche pas.
Autre aménagement essentiel pour la sécurité, celui des carrefours. L'idéal, c'est le rond-point à la hollandaise, avec non seulement des voies séparées, mais aussi un sas entre voitures et vélos qui supprime le risque d'être fauché par une voiture lorsqu'elle tourne à droite. Il y en a un seul à Paris. Le code de la route doit lui aussi poursuivre son évolution. Si les cyclistes ont le droit de tourner à droite au feu rouge, c'est qu'il y a une bonne raison.
Pourquoi ça a été créé? Pas pour créer des incivilités, mais au contraire pour protéger le vélo, parce que quand le vélo part en même temps au feu rouge avec le flux automobile, en l'absence d'une piste cyclable, vous mélangez les vulnérables avec les forts. Et ça, c'est créer du danger. Donc justement, c'est pour laisser le vélo s'échapper de la meute, en quelque sorte, pour qu'il puisse se libérer.
Enfin, le plus dangereux en ville, c'est l'angle mort des poids lourds et des bus. Début 2020, deux accidents ont tué coup sur coup, pour cette raison, un cycliste et une fillette de 11 ans. Pourtant, il existe des solutions.
Il faut aussi équiper les véhicules. Ça coûte peut-être 1 000, 1 500 euros pour équiper un camion avec des caméras anti-angle mort. Aujourd'hui, on accepte, ce qui est absolument inacceptable, des camions qui roulent en ville sans équipement, qui voient l'angle mort, qui voient par exemple un lycéen à côté de lui.
Mais pour faire avancer toutes ces transformations, pour permettre aux cyclistes d'être vraiment en sécurité, le plus important se passe dans nos têtes, explique Stein von Osteren. Le vélo doit devenir un mode de transport à part entière. Les mentalités doivent évoluer.
Le danger, il n'est pas objectif, mais subjectif. Aujourd'hui, l'automobiliste, et c'est ça la bonne nouvelle, sait qu'il est entouré par des cyclistes qu'il faut faire attention. La révolution du vélo en France est en train de se passer dans l'esprit de l'automobiliste parce que lui aussi ou elle aussi devient cycliste. Il faut aussi créer une culture du vélo à partir de maintenant. On a créé les pistes, on est en train de les créer, mais il faut aussi des cyclistes. Il faut en parler.
Et pour notre chronique en un mot, on se rend en Hongrie pour décortiquer un drôle de mot qui parle à la fois de gourmandise, mais aussi de sécurité face à l'adversité et au danger. C'est le mot Speise et c'est Florence Labruyère qui nous fait l'explication de texte depuis Budapest.
Rien qu'à entendre le mot Speis, on a l'eau à la bouche. Ce mot emprunté à l'allemand signifie garde-manger. Le Speis, c'est un élément indispensable de la vie quotidienne des Hongrois, explique Claire Ougnadi, une franco-hongroise, professeure de français à Budapest.
C'est un petit garde-manger, un petit kajibi avec de la place pour mettre les bocaux de conserve, les jambons qui sont accrochés, qui sèchent tout doucement, les œufs qu'on met pas au frigo directement, etc. On peut même y rentrer, c'est comme un petit kajibi. Et il y a des étagères partout, et ça jouxte en principe la cuisine. C'est justement pour éviter de faire des kilomètres à la cave pour aller chercher les patates, les bidons d'huile, etc.
Si le garde-manger est plutôt typique des appartements anciens et des maisons de campagne, il revient à la mode.
De plus en plus, je vois des jeunes qui s'installent et qui disent « Ah ben non, ici il faudra le Speis, il faut penser au Speis, on a besoin du Speis ». Il y a pas mal d'expressions, faire des économies, mettre des choses de côté, « Bechpaisolni », donc bien mettre tout ça de côté pour qu'on puisse l'utiliser un peu plus tard.
« Bechpaisolni », c'est un verbe, donc.
C'est un verbe, oui. « Be » qui veut dire « dedans » et « Speis », donc dans le Speis. Hop, dans le Speis. Épargner, mettre de côté pour les mauvais jours, en fait.
Un peu l'équivalent du bas de laine français ou...
Oui, mais c'est pas en argent, c'est en nourriture.
Le mot Speis a donné naissance à l'une des expressions les plus imagées de la langue hongroise. Les Russes sont déjà dans le garde-manger. L'expression vient du film Le Caporal et les autres, une comédie satirique tournée sous le communisme. L'action du film se déroule peu avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors que la Hongrie occupée par l'Allemagne est sur le point de tomber aux mains des Russes. Le personnage principal est un caporal hongrois qui déteste la guerre, raconte le critique de cinéma Gerd Baron.
C'est un homme simple qui n'a pas du tout envie de se battre. Il déserte l'armée et se réfugie dans un château à la campagne qui semble abandonné. Mais il se trouve qu'un tas de gens est caché là. Un vieil aristocrate et son majordome, des soldats allemands, un communiste hongrois, une femme, etc. Bref, des gens très différents mais qui finissent par former une communauté. Personne ne sait exactement où est l'armée russe. Mais on sait qu'elle se rapproche et tout ce petit monde survit en attendant la fin de la guerre.
Heureusement, personne ne meurt de faim, car dans ce château, il y a un Speis, un garde-manger plein de provisions. Un jour, l'un des habitants va chercher un pot de confiture dans le Speis. Il y fait une rencontre inattendue.
Il prend un pot de confiture sur l'étagère et tout à coup, il voit le visage d'un soldat russe qui s'est caché derrière les étagères. Effrayé, le Hongrois remet le pot de confiture à sa place et court avertir les autres. Il leur annonce « Les Russes sont déjà dans le garde-manger ».
La réplique « Les Russes sont déjà dans le garde-manger » est devenue une phrase culte. Elle signifie littéralement qu'il y a urgence ou danger et qu'il faut agir sans tarder. En pratique, les Hongrois l'utilisent dans toutes sortes de situations, observe Gerd Baron.
C'est une expression très courante dont on change parfois un mot. Par exemple, quand des gens que vous avez invités à dîner arrivent en avance et sonnent à la porte, on dit « Ah, les invités sont déjà dans le Speis ». Ça peut exprimer la surprise ou le danger. Beaucoup de gens utilisent cette expression sans savoir d'où elle vient.
Pour les enfants comme pour les adultes, le Speis est aussi une cachette idéale pour garder des petits secrets.
Du courrier, indésirable, qu'on ne veut pas qu'on voit. Oui, c'est un très très bon endroit. Et puis il y a par exemple les valises, vous savez, avec les choses qu'on ne porte pas souvent. Il y en a une qui est au Speis. Ouais, les choses finissent par sentir le saucisson, mais... Moi, je vous dis, c'est un endroit agréable parce qu'on y va et puis on se sent rassuré qu'on a de quoi manger. Au moins quelques jours, si ce n'est pas quelques semaines.
Le Speis, c'est le symbole de la sécurité alimentaire, d'une abondance à portée de main et du péché mignon des Hongrois, la gourmandise.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr à la rubrique podcast Accent d'Europe ou sur vos plateformes d'écoute préférées. À demain.
Radio France.